C'est pourquoi, juste un peu plus haut, il a pu s'exprimer en disant « Christ est ma vie et la mort m'est un gain, du coup, puisque je suis encore plus proche du Christ. » Lorsque la mort vient me frapper. C'est non pas que la mort soit en elle-même un bien, mais à cause de la vie donnée par Jésus-Christ et que connaît celui qui s'unit à Jésus-Christ par la foi, qui se branche sur lui par la foi. Et on pourrait parler encore d'autres passages du Nouveau Testament qui affirment la même chose avec beaucoup de force, mais je cite simplement un texte très très apaisant, très consolateur, dans le livre de l'Apocalypse. On a l'habitude, quand on mentionne le mot Apocalypse, de penser désastre seulement. Mais il y a aussi des paroles de paix, des paroles qui guérissent toutes nos angoisses dans le livre de l'Apocalypse. Et au chapitre 14 de l'Apocalypse, au verset 13, nous lisons « J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, c'est-à-dire dans sa communion, unis à lui. » Voilà le message de consolation que l'Écriture, la Bible, la révélation biblique nous propose. En réponse à la question, qu'y a-t-il au-delà de la mort ? Au-delà de la mort, il y a l'attente d'un jugement terrifiant, l'ardeur d'un feu qui consumera les rebelles, dit l'Épître aux Hébreux, pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, qui persévèrent dans une indifférence insultante à leur égard. Mais il y a, pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, qui se sont branchés sur lui, alors une glorieuse certitude de ne jamais être séparé de lui, de demeurer dans sa vie. Mais alors, je pense que la question pourrait être posée. Des gages, des garanties. J'ai affirmé toutes les voies que les hommes peuvent construire à partir des indices ici-bas, à partir de messages spirituels ou autres, sont incertaines. Il faut une révélation qui nous vienne du Dieu souverain sur l'au-delà. Mais quelle est la garantie qu'il s'agit ici d'une révélation de ce Dieu-là et non pas d'une autre construction humaine? Je ne vais pas traiter de manière complète, bien sûr, ce sujet. Ça pourrait nous occuper toute une autre soirée. Mais je pense quand même qu'il nous faut indiquer que cette question est pertinente. Qu'il serait pas du tout conforme à la Bible pour nous de répondre c'est une question à ne pas poser, à supprimer, il faut simplement la chasser de son esprit, parce que ce serait irresponsable. Notre foi en Jésus-Christ, lorsqu'elle se branche sur lui, c'est un acte de responsabilité. Alors qu'avons-nous à répondre? Je pense qu'il est juste de dire qu'une réponse qui a inspiré des millions de croyants sur des dizaines de siècles, c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, que par rapport aux prétendues révélations d'un tel ou d'un tel dans les siècles, etc., il y a a priori quand même là un titre, des lettres de créance en quelque sorte qui valent quelque chose. Mais ça ne suffit pas quand même, parce qu'il y a aussi d'autres grandes religions qui ont duré un bon bout de temps dans l'histoire de l'humanité. Alors il faut en dire plus. Il y a tout ce qu'une étude détaillée de l'ensemble de la Bible permettrait d'observer, d'harmonie, de cohérence entre les parties bibliques. Alors, bien sûr, nous n'avons pas le temps de voir maintenant, mais je vous presse de vérifier qu'en effet la Bible est différente de tout autre livre par l'harmonie symphonique de toutes ces parties. Il n'y a pas de grand livre religieux de l'humanité qui ait été produit comme la Bible sur 2000 ans avec des tas d'auteurs différents, etc., et qui ait cette unité. Vraiment, c'est quelque chose d'unique. Mais pour ça, il faut que vous le voyez, que vous l'observiez en lisant vous-même cette Bible. De manière plus prompte, une deuxième grande garantie nous est offerte, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et cela, c'est bien sûr en plein dans notre sujet. Nous avons parlé de la mort que Jésus-Christ a consentie. Mais, vous le savez, il n'est pas resté dans le tombeau, justement parce que cette mort qu'il a accomplie pour nous sauver a été efficace, parce qu'il a résolu la question, qu'il a liquidé le contentieux. Il a pu ressusciter comme le prince de la vie, comme celui qui avait vaincu la mort. Il y a un titre de livre écrit au XVIIe siècle que j'aime souvent citer, qui est magnifique. La mort de la mort dans la mort du Christ. La mort de la mort dans la mort du Christ. C'est ce que la mort du Christ a opéré, la mort de la mort. Et cela est apparu, c'est manifesté, le troisième jour, le jour de Pâques, quand il est ressuscité des morts. Jésus-Christ est le seul homme qui, sur cette terre, ici-bas, d'une façon qui a été constatée par des témoins dignes de foi, a vaincu la mort. Bien sûr, je sais que dans la Bible, il est raconté que quelques hommes ont été rappelés de la mort par la puissance même du Christ, ou la puissance de Dieu par des prophètes dans l'Ancien Testament. Mais ça n'a été qu'un sursis, ça n'a pas été une victoire sur la mort, ça a été comme un sursis qui leur a été accordé, un signe extraordinaire, mais pas la victoire sur la mort. Mais le Christ, lui, est ressuscité dans un corps neuf, inattaquable aux acides de la mort. Il est ressuscité comme vainqueur de la mort. Et ça, c'est pas une idée religieuse, c'est un fait qui a été constaté dans l'histoire, qui est daté, qui a été repéré historiquement. Voilà ce que nous rapporte le Nouveau Testament. Et j'ose dire que c'est le fondement principal de notre assurance. Vous le savez, je pense plusieurs d'entre vous, vous avez lu la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, l'apôtre Paul dit que si c'était pas vrai, nous serions les plus malheureux de tous les hommes. Qu'il serait lui-même et tous ses compagnons de faux témoins, si c'était pas vrai, notre foi serait vide. C'est net. C'est là le fondement. S'il n'était pas vrai que Jésus est vraiment ressuscité dans son corps, un corps radicalement renouvelé, si ça n'était pas vrai, alors le christianisme ne vaudrait pas qu'on s'y arrête. Et il n'y aurait que ces pseudo-consolations des matérialistes et des spiritualistes à jouer au ping-pong entre elles. Mais Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Il y a eu des gens comme Frank Morrison qui ont voulu, qui ont étudié le sujet pour écrire un livre de critique de la foi chrétienne, de destruction de la foi chrétienne, et qui, en analysant les données du Nouveau Testament, repérant quels sont les témoignages à la résurrection de Jésus-Christ, ont été convaincus. On était obligé de dire, parce qu'ils étaient suffisamment honnêtes pour cela, oui, il n'y a pas d'autre hypothèse. Tout ce qu'on a imaginé pour essayer de l'expliquer autrement, ça ne joue pas. Il est vraiment ressuscité. Et s'il est vraiment ressuscité, alors il y a une garantie qu'après la mort, ce n'est pas le zéro, rien. Qu'après la mort, c'est ou bien le jugement, comme il l'a dit, ou bien la vie même, qu'il a obtenu pour nous par sa mort. Je pense qu'on peut ajouter une donnée avec une certaine hésitation, mais il ne faudrait quand même pas l'éliminer. Une donnée à cette donnée principale qu'est la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'expérience des chrétiens qui, selon ce que j'ai expliqué, branchés sur le Christ par la foi, sur le Christ vivant ressuscité aujourd'hui, connaissent quelque chose de sa vie qui s'écoule en eux. C'est ce qu'on appelle le ministère de l'Esprit de Dieu, du Christ, le Saint-Esprit. Alors je dis, j'hésite un petit peu à parler de ça, parce que cette vie nouvelle est en nous en germe, et que nous réussissons malheureusement bien souvent par notre sottise à réprimer les effets. Nous ne vivons pas comme des gens qui ont cette vie nouvelle en eux, alors que nous devrions. Mais malgré tout, malgré nos insuffisances, malgré le caractère encore embryonnaire de cette vie nouvelle dans notre existence, je crois que nous pouvons dire qu'elle est là, que nous pouvons en rendre témoignage. Et peut-être parfois moins pour nous-mêmes, parce que bon, nous voyons ce qui ne va pas, mais tel ou tel de nos frères, de nos sœurs, en Jésus-Christ, nous voyons, oui, vraiment, il y a cette réalité nouvelle d'une vie qui triomphe de la mort. Cette expérience n'a son prix, sa valeur, cette expérience dont nous témoignons, que par la résurrection de Jésus-Christ. Elle ne peut pas être le premier fondement. Mais sur la base de la certitude de la résurrection de Jésus-Christ, alors elle prend de la force. Et nous pouvons, comme la première épître de Jean, je crois, nous y invite, nous affermir encore en notre assurance, en considérant ce que l'Esprit de Dieu communique à notre existence chaque jour. Il n'y a pas seulement ce qui pourrait venir des ressources de notre propre nature, il y a autre chose. Je crois que les chrétiens vraiment peuvent attester cela. Et cette autre chose, oui, c'est le début d'une vie nouvelle qui ne peut plus être atteinte par la mort. C'est dans ce sens que Jésus-Christ peut dire, dans sa réponse à Marthe, au chapitre 11 de l'évangile de Jean, que celui qui croit en moi ne mourra jamais. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Oh, il ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de décès. Mais cette mort n'est plus vraiment la mort. Il y a une continuité de la vie reçue par la foi en Jésus-Christ, par le branchement sur Jésus-Christ. Qu'y a-t-il après la mort? Je crois que la Bible nous donne à la fois la réponse et le moyen de tester cette réponse. Si quelqu'un veut le savoir, eh bien qu'il se branche sur Jésus-Christ, qu'il mise sa vie, parce que ça, les enjeux méritent bien qu'on mise, qu'il mise sa vie dans cette direction offerte. Et le Christ le promet, nous l'attestons à sa suite, il saura que là est la vie. Merci d'avoir écouté jusqu'à maintenant, patiemment.
Nous remercions Monsieur Blocher pour cet exposé très complet et très riche. Et peut-être certains d'entre vous souhaiteraient lui poser des questions ou demander un éclaircissement sur tel ou tel point de ce qu'il nous a dit. Je pense que nous pouvons encore.
Moi j'ai une question, si vous permettez, sur le sujet de Samuel.
Oui, oui.
Est-ce que vraiment c'est Samuel qui est revenu à la vie? Enfin, un mort peut revenir sur cette terre. Je sais que cette question était très débattue par les théologiens.
Quelle est votre position? Dans le premier livre de Samuel, n'est-ce pas, il nous est raconté que le roi Saül, à la fin de sa vie, a été consulté un médium, une femme qui évoquait les morts, pour savoir ce qu'il en serait de la bataille qu'il devrait livrer. Ce qu'on appelle parfois la sorcière, mais enfin, disons, la médium d'Endor. Et il a demandé que ce soit Samuel, celui qui avait gouverné Israël avant lui, qu'il avait un sacré roi, et qui était mort. Il a demandé que ce soit Samuel que ce médium interroge. Et alors le récit nous dit que la femme a vu monter la figure de Samuel, elle a d'ailleurs été effrayée, et qu'elle a eu comme réponse qu'il mourrait dans cette bataille qui tournerait au désavantage de l'armée d'Israël, etc. Alors la question qu'on a posée, c'est de savoir si c'était vraiment Samuel, ou bien un simulacre que peut-être un esprit démoniaque avait fait apparaître, seulement le message était vrai. Si c'était vraiment Samuel ou non. Ou bien si c'est une image que Dieu lui-même avait fait paraître, sans la personne même de Samuel. ou bien si vraiment un mort peut remonter de cette façon. Alors c'est une question assez délicate à traiter parce que le texte n'est pas très explicite. Et nous en sommes quand même réduits à des hypothèses à propos de ce qui s'est passé réellement dans cet incident. On peut remarquer en tout cas une chose, c'est l'effroi de cette femme lorsqu'elle voit la figure de Samuel. Était Samuel ou seulement une image de Samuel produite par un autre agent, je laisse encore cette question de côté, mais de toute façon, il y a eu effroi pour elle. Cela suggère que ce qui s'est passé à ce moment-là était différent de ce qui se passait ordinairement pour elle, quand elle évoquait les morts, quand elle les interrogeait. Parce qu'autrement, il n'y aurait pas eu lieu pour elle d'éprouver quelques craintes à ce moment-là. Il s'est passé quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle a supposé que les autres fois, elle ne voyait rien, puis qu'elle racontait ce qu'elle voulait au consultant. Bon, mais ça c'est la première chose à remarquer. L'idée que ce ne soit pas Samuel lui-même n'a aucun appui dans le texte, car il est dit, elle vit Samuel. Et Samuel lui fait des reproches de l'avoir dérangé. Dans le repos bien mérité qu'il goûtait dans le séjour des morts. Donc, Samuel dit à Saül, en la présence de cette femme, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Donc le texte ne suggère pas que c'était une simple image, produite soit par un mauvais esprit, soit par le Seigneur, s'il avait voulu, il aurait pu le faire. Et moi, je dois dire que je ne vois pas d'inconvénient majeur à l'idée que, dans ce cas, Dieu ait permis que l'âme de Samuel prenne cette forme visible, dans ce cas précis, tout à fait donc en dehors des habitudes du spiritisme de cette femme, pour porter ce message au roi Saül, qui était le message de sa condamnation. Puisque les morts existent vraiment, continuent de subsister au-delà de la mort, Samuel n'avait pas cessé d'exister. Puisqu'ils ne sont pas inconscients, j'ai pas eu le temps de traiter ce point, mais je pense qu'on peut le montrer par la Bible. Certains ont imaginé qu'ils étaient complètement inconscients, parce qu'ils ont, je crois, mal compris certains textes. Puisqu'ils ne le sont pas, ils sont conscients. Je pense qu'exceptionnellement, Dieu a pu permettre que Samuel apparaisse et qu'il profère ainsi un message. On pourrait comparer à certains égards à l'apparition lors de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, de Moïse et d'Élie, des hommes qui étaient morts, là aussi, et qui sont apparus sur la terre, sous une forme qui était à ce moment-là visible des yeux de chair, pour apporter un message aux vivants, là, plus spécialement à Jésus lui-même, parlant avec lui de son exode, c'est de nouveau le terme exode, vous voyez, qu'il devait accomplir à Jérusalem, de sa mort à Jérusalem. Moïse et Élie ont pu le faire, pourquoi Samuel n'aurait-il pas pu le faire, en jugement cette fois? Je pense que c'est possible, hein. Je ne vois rien qui soit contraire à la doctrine biblique que j'ai essayé de résumer. Mais en même temps, je ne serai pas dogmatique là-dessus, je pourrais aussi imaginer que Dieu ait suscité une simple image et que ce soit raconté comme ça, quand même.
Il y a un autre passage qui m'intrigue beaucoup. Quand le Seigneur est mort, il est écrit que les corps des saints ressuscitèrent et se montrèrent à plusieurs dans la ville. Oui. Qu'en est-il? Sont-ils retournés dans la tombe après, ou bien ont-ils été enlevés au ciel, ou... Peut-être que vous pourriez vous donner des lumières.
Je n'en sais pas plus que vous, parce que je n'ai de lumière que ce qui est dans la Bible. Or, la Bible se contente, pas dans l'évangile de Matthieu, de cette très courte mention, les autres évangiles n'en parlent pas, sur les corps de plusieurs saints, c'est-à-dire des hommes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu, qui ont ressuscité au moment où Jésus est mort. Voilà, alors c'est la réponse que je serais porté aussi à donner. Là, je cherchais la référence pour que vous l'ayez exactement. C'est donc Matthieu 27, versets 51 et suivants. Le voile du temple se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints, pas tous, hein, qui étaient décédés, ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte, après la résurrection de Jésus, et apparurent à un grand nombre de personnes. Alors, je suis, pour ma part, enclin à suivre l'opinion de notre sœur. Il me semble que c'est comme un hasard. Certainement, ça n'a pas été une résurrection comme celle de Jésus-Christ, qui est la seule dont l'Écriture nous parle comme d'une résurrection de victoire avec la vie corporelle nouvelle. Les autres hommes attendent la résurrection finale pour avoir le corps nouveau que Jésus-Christ, qui est le premier, le pionnier, et le modèle, lui possède déjà depuis le matin de Pâques. Ça, c'est avant Pâques que ça s'est passé. Donc, c'est plutôt comme Lazare, ou comme les cas de résurrection de l'Ancien Testament, le fils de la veuve de Naïn dans le ministère de Jésus. Ils ont été rendus parce que c'est un signe que Dieu voulait produire. Ils ont été rendus à cette vie mortelle pour un temps, mais à titre de signe.
Il me vient quelquefois une idée un peu saugrenue au sujet de Lazare. Puisqu'il est revenu à la vie, peut-être qu'il y en a qui l'ont interviewé, mais qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as... Raconte-nous ce que tu as... Naturellement, c'est saugrenu comme question.
Mais... Je pense que la question est peut-être saugrenue, mais qu'elle a certainement été posée, parce qu'elle nous vient tout naturellement à l'esprit. Elle vous vient à l'esprit, mais elle me viendrait aussi bien à l'esprit. Et je rencontrerai Lazare, ou j'aurais rencontré Lazare à cette époque, à coup sûr, j'aurais essayé de savoir. Alors, comme il n'y a aucune réponse dans la Bible elle-même, je suppose que Dieu l'a frappé d'amnésie à propos de ces trois jours. Précisément pour que nous ne cherchions pas à savoir les choses par des voies détournées. Autrement, nous aurions sans doute eu quelque écho de ce qu'il aurait dit. Or, rien. Donc, je suppose que ça a été comme ça. Monsieur Berger.
On dit quelquefois qu'après la mort, nous devenons de purs esprits. D'autres, mais la Bible dit que nous aurons un corps immortel. Je crois que c'est ça qu'il faut surtout dire, que nous ne serons pas comme les gens qui, comme des esprits qu'invoquent les spirites.
Oui, alors je crois que le point est intéressant, je l'ai exploré tout à l'heure, mais autant maintenant préciser encore les choses. Notre destinée, parce que Dieu a conçu l'homme comme un être corporel, c'est de finir avec un corps. Et cela non seulement pour ceux qui obtiennent la vie qui est en Jésus-Christ et qui ressusciteront donc avec un corps semblable au sien, mais même pour les autres qui n'auront pas fait la paix avec Dieu et qui porteront la responsabilité de leurs actes de manière éternelle. Au terme, au jugement, ils ressusciteront aussi de façon corporelle. Parce que c'est l'homme tout entier qui doit porter la responsabilité des actes qu'il a commis. Il y a une résurrection des injustes, dit le texte, ceux qui n'ont pas reçu la justice cadeau de Dieu. Autrement, nous sommes tous injustes. Mais il y a les justes et les injustes dans l'Écriture parce que il y a une justice cadeau qui nous est donnée comme avec la vie en Jésus-Christ. Mais avant ce moment de la résurrection, nous recevons notre corps, alors à titre provisoire, puisque la vie nouvelle ne peut pas être interrompue, et puisque l'être intérieur est relativement indépendant de la vie corporelle, il y a ce qu'on appelle l'état intermédiaire, où la personne est pur esprit ou pure âme, comme vous voulez. Les deux termes peuvent être employés, ils sont employés chacun dans deux passages du Nouveau Testament pour désigner cet état. Dans dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Donc ceux qui sont morts en Jésus-Christ sont appelés les justes, les esprits des justes parvenus à la perfection. Ils sont appelés esprits. Et ils sont appelés âmes dans le chapitre 6 de l'Apocalypse, où il nous est dit « Je vis les âmes de ceux qui avaient été égorgés pour martyrs, pour le témoignage de Jésus. » Ils étaient dans le ciel et demandaient à Dieu d'intervenir pour faire cesser toutes les injustices sur la terre. Je vis les âmes. Donc ces passages nous montrent que pour un temps, qui correspond à cette tranche de l'histoire où nous sommes, il y a une existence désincarnée. Mais ce n'est pas notre destination finale. Je crois d'ailleurs que c'est cet accent sur le fait que notre destination finale est différente que nous avons dans la seconde épître aux Corinthiens, dans un passage qui n'est pas, je crois, traduit de façon très satisfaisante dans toutes les versions. Mais j'ai fait autrefois un travail, j'ai aussi écrit un article dans le journal Le Christianisme au XXe siècle, il y a quelques années, sur ce passage. Mais je pense que la traduction peut en être discutée, qui se trouve dans beaucoup de nos versions actuelles. Je vais lire à partir du chapitre 4, verset 16, et puis je vous dirai comment je crois qu'on doit comprendre. C'est un passage qui, de nouveau, concerne tout à fait notre sujet. « Nous ne perdons pas courage, même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Cette grande dissymétrie, le corps extérieur se détruit, mais l'homme intérieur, parce qu'il a reçu la vie de Jésus-Christ, se renouvelle. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. C'est probablement tout l'environnement céleste qui nous est promis, et à la fois aussitôt après la mort et après la résurrection. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste. Alors là, la traduction ajoute par-dessus l'autre, mais je crois que c'est une erreur de traduction. Bon, c'est une histoire de grammaire grecque, hein. Donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais je laisserai tomber dans la traduction ce par-dessus l'autre, mais nous désireux de revêtir parfaitement notre domicile céleste. Et je ne traduirai pas « si du moins nous sommes trouvés nus et vêtus et non pas nus », mais « car en effet, nous serons trouvés vêtus et non pas nus ». Ce qui veut dire notre destinée finale n'est pas, comme pour les platoniciens, de nous retrouver des esprits nus, sans corps. C'est ça leur rêve, aux platoniciens. Mais notre destinée finale est d'être trouvés vêtus. Nous désirons revêtir le domicile céleste que Dieu nous prépare et non pas d'être nus sans corps au bout du compte. Je crois que c'est comme ça qu'il faut traduire. Enfin, vous voyez, je sais que j'ai des arguments grammaticaux et que j'ai des commentateurs de mon côté, hein, sur ce point. Je ne peux pas entrer dans un tel détail. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons dans cette tente, ce corps présent, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, c'est pas notre rêve, le rêve de Socrate et le rêve de Platon qui rêvait de se dévêtir. Tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons dans cette tente, ce corps présent, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, c'est pas notre rêve, le rêve de Socrate et le rêve de Platon qui rêvait de se dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. La vie plénière du Christ envahissant jusqu'à notre corps donnera le corps nouveau. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, c'est ce début de vie nouvelle dont nous avons parlé. Dieu nous a formés et nous en a donné le gage par l'esprit pour que nous soyons revêtus d'un corps nouveau, et non pas pour que nous soyons purs esprits désincarnés. Oui, voilà la logique de l'apôtre Paul ici. Nous sommes donc toujours pleins de courage, Mais il sait aussi qu'il peut y avoir une situation intermédiaire. Mais nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Cependant, n'est-ce pas, notre désir d'être auprès du Seigneur est tel que même l'état intermédiaire, sans le corps encore, nous paraît meilleur que d'être dans ce corps sur la terre. Nous préférons, à cause de la grande joie d'être auprès du Seigneur, quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur, mais à titre provisoire, pour l'état intermédiaire. C'est pour cela aussi que nous mettons notre point d'honneur à lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Vous voyez, ce passage nous présente, je crois, à la fois notre espérance dans son objet final. Tout ce qui est mortel en nous, dans notre corps même, sera englouti par la vie. Nous aurons un corps, Dieu nous prépare à cela, de telle sorte que nous ne serons pas des esprits nus éternellement, mais vêtus d'un corps parfait. Mais en attendant, pour être auprès du Seigneur, nous acceptons l'idée de quitter le corps, ne pas avoir de corps à titre provisoire. Voilà comment je pense que ce passage peut être compris.
Monsieur Gilles. Oui, vous avez dit tout à l'heure que le monde a été mauvaise d'après la Bible.
Oui.
Quand on contient 15, le monde vrai.
Oui.
J'ai tendance à comprendre d'après le récit de la chute que le monde a un côté quand même un gain parce qu'il nous permet de ne pas vivre dans la séparation d'un homme. Si Dieu nous garde de l'arbre de vie, alors je ne sais pas si c'est une mauvaise compréhension de ma part, mais.
Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une mauvaise compréhension de votre part. D'ailleurs, vous savez que je dis des choses qui vont un peu dans ce sens quand je traite de Genèse 3. Cependant, je ne remettrai pas en cause, pour autant, l'idée que la mort est mauvaise en elle-même. Je pense qu'il y a ce mal et qu'il y aurait pire s'il n'y avait pas la mort. Que la parole de la Genèse montre le Seigneur déclarant maintenant étendons la main de peur que l'homme ne prenne aussi du fruit de l'arbre de vie ne vive éternellement comme s'il y avait là un très grand danger. La phrase d'ailleurs est inachevée mais elle veut clairement dire cela que cette phrase veut dire que ce serait encore pire pour l'homme lui-même qu'il ait une sorte d'éternité avec possibilité d'action, de manifestation, comme à la manière de la vie, dans son péché, dans sa révolte contre Dieu. Dieu, en faisant cesser cela, en limitant le temps des possibilités d'action de l'homme pécheur, use envers lui de miséricorde. Ce serait monstrueux d'imaginer un homme qui continuerait à avoir toutes les possibilités d'action dans l'hostilité à Dieu. Mais ça n'empêche pas que la mort est salaire du péché, que la mort est réalité mauvaise, que Dieu n'avait pas voulu pour l'homme. Voilà comment je comprends cette relation.
Je pense qu'il va peut-être falloir maintenant mettre un terme à cette réunion. Remercie encore M. Gauthier. Et j'aimerais que nous terminions par la prière. Seigneur, tu vois notre angoisse devant la mort lorsque nous ne savons pas que toi, tu es venu en Jésus-Christ nous délivrer. Nous te rendons grâce pour celui qui a livré sa vie pour nous afin de nous racheter du péché, de nous délivrer du jugement et de nous donner la vie éternelle. Nous te rendons grâce pour sa résurrection qui est notre espérance. Donne-nous, Seigneur, de vivre dans cette espérance en cherchant toujours à te plaire. Je vais maintenant nous garder, à cause de cette bonne nouvelle que tu nous as fait encore entendre ce soir, dans la paix. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen.